À vous la suite. Le premier jour du reste de ma vie, de Virginie Grimaldi, fin du livre. Il est maintenant temps de savoir dans quel état d'esprit sont Marie, Anne et Camille à la fin de leurs 3 mois de croisière autour du monde. Si cette vision des derniers chapitres du livre vous a laissé sur votre faim, le livre reste disponible à la bibliothèque pour une écoute complète.
Il est 3 heures du matin lorsque l'alarme incendie retentit. Marie se réveille en sursaut et a besoin de quelques secondes pour réaliser que son oreiller a le cœur qui bat. Loïc ouvre les yeux. La consigne en cas d'alarme est connue de tous les passagers. Ils doivent se rendre au plus vite sur le pont supérieur avec leur gilet de sauvetage. Marie saute dans une robe. Loïc enfile son jean. « On est dans la merde, » dit-il. « Déjà, faut que je sorte d'ici sans que personne me voie. Ensuite, faut que je passe dans ma cabine chercher mon gilet. » Tout ça pour une fausse alerte, comme chaque fois. Mais en pleine nuit, c'est une première, répond-elle en se dirigeant vers la porte. Allez, je sors d'abord. T'as qu'à attendre quelques minutes. Loïc la retient par le bras. Dis donc, tu partirais sans me dire adieu? Adieu, beau brun. C'était pas trop mal comme dernière soirée. Il y a de l'agitation dans les couloirs. Des gilets oranges, surmontés de mines endormies, se pressent vers le pont supérieur dans un brouhaha assourdissant. Dehors, les croisiéristes attendent que la cause du déclenchement de l'alarme soit découverte pour rejoindre leur lit. Marie reste près de l'accès principal pour surveiller l'arrivée de Loïc. Rose n'est pas loin. Quelle honte, non, mais quelle honte, rumine-t-elle. C'est de mieux en mieux, cette croisière. Maintenant, il nous réveille en pleine nuit. Marie s'apprête à lui répondre quand elle entend une voix familière le faire à sa place. « Vous êtes encore là, vous ?» Camille a les yeux encore collés et les cheveux en bataille. « J'étais en train de rêver de William, » poursuit-elle en prenant soin de parler fort. « J'allais avoir un orgasme quand l'alarme a sonné. » Rose marmonne quelques mots et s'éloigne. Camille ricane. Francesca, appuyée contre un mur à 2 pas de là, observe la scène avec un sourire en coin. « Je ne sais pas pourquoi elle sourit, celle-là, » dit Marie. « Mais ça ne me plaît pas du tout. » 20 minutes plus tard, Loïc n'est toujours pas sur le pont. Marie et Camille en font le tour plusieurs fois, sans succès. Dans son porte-voix, Arnold annonce aux passagers qu'il s'agissait d'une fausse alerte. La compagnie est désolée. Ils peuvent regagner leur chambre dans le calme. Ils obéissent, tout au moins pour la première partie de la consigne. Marie est arrêtée par Arnold au moment de franchir les portes. « Madame Deschamps, le directeur demande à vous voir. »« Quoi, maintenant ?»« Oui, madame. » Camille s'arrête à leur côté. « Je peux l'accompagner ?»« J'ai bien peur que non, madame. » En suivant Arnaud dans les couloirs, Marie sait ce qui l'attend. Loïc a certainement été surpris en sortant de sa cabine. Ils vont être débarqués et chacun rentrera chez soi. Ce sera inutile de lutter. Le directeur de croisière a prouvé qu'il n'avait pas été livré avec l'empathie à la naissance. C'est la gorge serrée qu'elle entre dans le bureau qu'elle commence à connaître. Le directeur est à sa place, un caramel dans la bouche. Face à lui sont assis Loïc, penaud, et Francesca triomphante. Arnold fait signe à Marie de prendre place sur la chaise libre à leur côté. Elle s'exécute. « Comme nous sommes en pleine nuit, je vais aller droit au but, » attaque le directeur. « Le règlement que vous avez signé stipule que les couples sont interdits sur cette croisière. Vous confirmez ?»« Oui, » répondent Marie et Loïc. Lorsque l'alarme a retenti, Madame Rimini, ici présente, est venue me trouver pour me conseiller de guetter votre cabine. Je l'ai donc fait. Sur mon écran, la vidéosurveillance de votre couloir a révélé vos secrets. Marie baisse la tête. C'est foutu. Madame Deschamps, et M. Le Guénec, il semble que vous ayez passé une partie de la nuit ensemble. Et je me suis laissé entendre dire que ce n'était pas la première fois. Je confirme, dit Francesca. Comme vous le savez, je suis très à cheval sur le règlement. Mais il y a une chose que j'aime encore moins que les manquements au règlement, c'est la méchanceté et le chantage. Il prend un deuxième caramel et le mâche longuement. Au fond de la pièce, Arnold tente de masquer son sourire. Loïc soupire. Madame Rimini, reprend le directeur en regardant Francesca. Depuis le début de cette croisière, vous usez de votre statut d'auteur de guide touristique pour nous menacer. Je vous ai fait surclasser. Je vous ai obtenu des excursions personnalisées. J'ai renvoyé la serveuse du snack qui ne vous avait pas salué. J'ai fait débarquer un couple de personnes âgées. J'ai supporté vos plaintes pendant presque 3 mois. Francesca se lève d'un bond. Comment osez-vous me parler ainsi? Vous savez qui je suis. Je peux détruire votre réputation. Oui, vous le pouvez, mais vous ne le ferez pas. Marie et Loïc se lancent en regard interloqué. Le directeur tourne l'écran de son ordinateur vers eux. L'image n'est pas nette, mais suffisamment pour y distinguer Francesca qui sort de sa cabine, se dirige vers l'alarme incendie, décroche le marteau, tape un grand coup dedans et regagne sa cabine en courant. Elle se laisse retomber sur sa chaise. Arnold étouffe un rire. « Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, et je ne veux pas le savoir, » poursuit le directeur. « Ce que je sais, c'est que vous quitterez cette croisière dès demain matin, par vos propres moyens, et que vous rédigerez un avis objectif. Sinon, cette vidéo sera envoyée à vos supérieurs. Est-ce clair ?»« Est-ce clair ?» répète-t-il. « C'est tout à fait clair, » rugit-elle. « Je me casse de cette croisière merdique avec grand plaisir. » Francesca se lève, fait une révérence et quitte la pièce d'un pas assuré. Marie et Loïc se sourient. « Ne fanfaronnez pas, dit le directeur. Cela me reviendrait cher de vous faire débarquer alors que la croisière est bientôt terminée. Mais je vous ai à l'œil. Je ne tolérerai aucun dérapage, journaliste ou pas journaliste. Vous pouvez retourner dans vos cabines. » Merci beaucoup, dit Marie en quittant le bureau. Un homme qui mange des bonbons a forcément bon cœur. Comme ces caramels, chuchote Arnold. Dur à l'extérieur, mou à l'intérieur. Il faut que je te parle. Camille a l'air gênée. Assise sur le balcon de Marie, elles partagent leur petit déjeuner en admirant le port d'Alexandrie qui approche. Une famille de dauphins leur souhaite la bienvenue. T'es bien sérieuse d'un coup. C'est rien de grave, demande Marie en trempant ses lèvres dans son chocolat chaud. Non, non, mais j'ai pris une décision et je voulais te l'annoncer. Je t'écoute. Camille prend une longue inspiration. Je vais rejoindre William à Auckland pour voir si ça peut marcher entre nous. On croit moyen aux relations à distance. Marie pose son mug. Mais c'est une super nouvelle. Je te souhaite que ça marche, ma puce. Il en dit quoi? C'est lui qui a insisté. Il voulait même venir à Bordeaux. Mais avec son boulot, c'est plus compliqué. Je suis heureuse pour toi, tu as bien raison. C'est maintenant qu'il faut foncer. Mais ça va? T'as l'air stressée. Camille se racle la gorge. Parce que je te l'annonce au dernier moment. J'ai pas réussi à le faire avant. Mon vol est à 15 heures. À 15 heures quel jour? Aujourd'hui. Quoi? S'écrie Marie. Tu pars d'Alexandrie? Mais c'est l'avant-dernière escale. Dans 3 jours, on est à Marseille. Je sais, mais tu me connais, je ne suis pas patiente. J'ai déjà la tête là-bas. Je n'arrive plus à profiter. Ah, merde, tu ne m'étais pas préparée à ça. Mais c'est une bonne nouvelle, vraiment. C'est juste que tu vas beaucoup me manquer. Camille a le menton qui tremble. Allez, poursuit Marie en la prenant dans ses bras. De toute manière, on arrive à la fin. Faut qu'on profite de nos dernières heures ensemble. Après, William te consolera. La cabine de Camille est vite rangée. Ses affaires s'entassent dans deux valises et ses souvenirs dans sa tête. Elle se remémore quelques anecdotes pour alléger l'atmosphère. Leur rencontre autour d'une paella, la tête d'Anne au bord de la falaise, leur journée au lit avec la grippe, leur fou rire sur le balcon de Marie. Mais les larmes ne sont pas loin. Camille fait un dernier tour de la pièce et s'assoit sur le lit. Attends, il faut que je fasse un dernier truc. Ce qui se passe sur la croisière reste sur la croisière. Son smartphone entre les mains, elle efface une à une les photos de ses proies. Le Portugais, les Antillais, les Américains, tous disparaissent de l'écran et de sa vie. C'était une chouette parenthèse, dit-elle en rangeant son téléphone dans son sac. Maintenant, je suis prête à me poser. L'aéroport international Borg El Arab est situé à une quarantaine de kilomètres d'Alexandrie. Dans le taxi qui les y mène, les deux femmes sont silencieuses. Marie essaie de trouver des sujets de conversation pour dédramatiser, montrer à Camille qu'elle ne lui en veut pas. Mais rien ne vient. Alors elle se tait et essaie de dissoudre la boule qui lui brûle la gorge. Sans Anne, leur groupe a déjà été amputé. Maintenant, elle va se retrouver en solo. Il y a 3 mois, c'est ce qu'elle voulait. L'adage « mieux vaut être seul que mal accompagné » la guidait alors. Avec ses amis, elle s'est rendue compte que bien accompagnée, mieux valait être plusieurs. Camille ne desserre pas les dents. Une fois dans l'avion, elle se concentrera sur ses projets, sur William. Mais pour l'instant, elle a le cœur lourd. Cette aventure a changé sa vie, bien plus qu'elle ne l'imaginait. Elle pensait faire un break, puis reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. Au lieu de ça, elle part à l'autre bout du monde, retrouver un homme qu'elle connaît à peine. Elle a perdu son travail, mais gagné des amis. Surtout, elle a grandi. Elle savait que quitter la croisière lui serait difficile. Elle a toujours eu beaucoup de mal avec les adieux. En partant avant la fin, elle les écourte un peu. Mais la douleur a quand même trouvé le temps de se glisser dans ses bagages. Le taxi s'arrête devant l'aéroport. Marie lui prend la main. « Ça va aller. On se revoit bientôt, au mariage. » Camille plonge la main dans son sac. « Tiens, en parlant de mariage, il te revient à toi maintenant. Hein que t'es contente. » Le museau aplati de Doudou se retrouve dans les bras de Marie. Oui, elle est contente. Elle garde ainsi un petit bout d'Anne et de Camille avec elle. En se dirigeant vers l'embarquement, Camille se retourne plusieurs fois. Marie lui envoie des baisers à travers la vitre. Jusqu'au dernier moment, les deux affichent un grand sourire. C'est à la seconde où elle ne se voit plus qu'elle laisse couler leurs larmes. C'est la fin. Viens, je vais te changer les idées. Loïc attend Marie sur la passerelle à son retour de l'aéroport. Elle avait prévu de se mettre en boule sous sa couette et d'y passer la soirée avec Doudou. Mais elle attrape la main qu'il lui tend et le suit dans les couloirs du paquebot sans trop de résistance. Devant sa cabine, il passe derrière elle, pose la main devant ses yeux et ouvre la porte. Tadam ! Fait-il en enlevant sa main. Sur le bureau, il a disposé une bouteille de coca, une d'oasis et un saladier rempli de bonbons. Dragibus, carambar, malabar, ourson en chocolat, fraise tagada, car en sac, réglisse, banane et langue qui pique. Loïc referme la porte. Rien de tel qu'une soirée régressive pour faire du bien au moral. Assieds-toi. Marie enlève ses chaussures et s'installe en tailleur sur le lit. C'est adorable, ça me touche beaucoup. Attends, t'as pas tout vu. Il la rejoint, pose le saladier à leur côté et appuie sur la télécommande. La télé joue un générique qu'elle reconnaît aussitôt. Dirty Dancing. Elle se met à rire. C'est exactement ce dont j'avais besoin, dit-elle en prenant un ourson en chocolat avant de se caler contre les coussins. 2 heures plus tard, le saladier est presque vide. Le film est fini. La boule dans la gorge de Marie a quasiment disparu. Ils ont passé la soirée à rire, à discuter entre deux scènes, à se goinfrer. Il a deviné ce qu'il lui fallait, comme s'il la connaissait parfaitement. Rodolphe n'aurait même pas remarqué son chagrin. D'autres lui auraient proposé un restaurant. Mais Loïc, non, il l'a comprise. Et ça commence à lui faire peur. « Je vais y aller, » dit-elle en se relevant. « Attends, il manque le final. » Loïc attrape plusieurs emballages jaunes dans le saladier, se met debout au pied du lit et en défroisse un. « Connais-tu la blague de la chaise? Elle est pliante. » Marie secoue la tête en riant. « Oh non, tu vas quand même pas me lire les blagues carambars. » On a dit que c'était une soirée remontage de morale. « Il faut ce qu'il faut, » répond-il en dépliant un deuxième emballage. « Que font deux brosses à dents le 14 juillet ?»« Aucune idée. Facile. Un feu dentifrice. » Marie fait mine de se boucher les oreilles. « Si tu continues, ça va avoir l'effet inverse. Je vais tomber en dépression. » « Arrête, elles sont super drôles. » Elle se lève à son tour et se poste face à Loïc. « Ok, on va faire une battle de blagues pourries, » dit-elle. « Le premier qui rit a perdu. »« D'accord, tu commences. »« Tu sais avec quoi on ramasse une papaye ?»« Avec une foufourche. »« Mouais, » répond Loïc en se mordant les joues. « Tu sais ce qu'est un canif ?» C'est un petit chien. Marie pince ses lèvres pour ne pas rire. Bof, bof, à moi. C'est un pingouin qui respire par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt. Les lèvres de Loïc tremblent. Il essaye de les maintenir immobiles. En vain. Son rire monte dans sa gorge et éclate face à une Marie triomphante. « J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné » crie-t-elle en sautillant. Loïc pleure de rire. « Ah oui, le coup du pingouin, je ne vais pas m'en remettre. C'est mes filles qui me l'ont raconté. J'en oublie la plupart, mais celle-là m'a marqué. Bon, j'ai gagné quoi ? Ce que tu veux. « Tout ce que je veux ?» demande-t-elle en s'approchant de lui lentement. « Tout ce que tu veux, » répond-il en caressant son bras. Elle lui tend ses lèvres, ferme les yeux et au moment de l'embrasser, lui murmure. « Ce que je veux, c'est que tu apprennes des blagues potables. Il en va de ton bien-être. » Et elle rit, ramasse ses chaussures et quitte la cabine en courant. Marie fouille son sac à la recherche de sa carte Félicita. En quittant sa cabine pour l'excursion à Savone ce matin, elle l'a jetée dedans sans prendre le temps de la ranger dans son portefeuille. Elle qui classait ses DVD par couleur de la tranche, puis par ordre alphabétique, elle ne se reconnaît plus. Dans la pochette intérieure, ses doigts rencontrent une feuille de papier. Surprise, elle la retire et la déplie. Marie, je ne suis pas très douée pour dire ces choses-là. Mais je ne pouvais pas partir sans te le faire savoir. Alors voilà, je te l'écris. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de vous avoir connus, toi et Anne. On n'a passé que 3 mois ensemble, mais je sais déjà que je ne veux plus me passer de vous. Vous comptez. Je te remercie pour tous ces moments que je n'oublierai jamais, pour ces discussions, pour tes conseils, pour ton ouverture d'esprit, surtout pour tous ces fous rires. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites pour la suite, avec ou sans lui. Je t'embrasse fort, fort, fort. Putain, je suis vachement plus polie par écrit. Camille. Postscriptum. Prends soin de Doudou. Il est très triste de ne pas vibrer. Un petit croquis représentant les trois femmes de dos, accoudées à une rambarde face à la mer, conclut le message. Plantée devant sa cabine, Marie sourit. Camille a certainement glissé dans son sac durant le trajet pour l'aéroport. Marrant. Il est quasiment identique au mot qu'elle a discrètement caché dans le sien au même moment. Dernière nuit. Assise sur le balcon, Marie admire une dernière fois ce spectacle qu'elle aime tant. La lune se reflète dans l'eau noire. Le ciel est parsemé de taches de lumière. Après le dîner du commandant, Loïc a senti la mélancolie de Marie. Il a insisté pour ne pas la laisser seule cette nuit. En réalité, elle a besoin de l'être. Dès qu'il s'est endormi, elle s'est glissée sur le balcon. Elle allume une cigarette piquée dans son paquet. Il faut qu'elle soit isolée pour repenser aux 100 jours qui viennent de s'écouler, pour faire le bilan. En posant un pied sur le paquebot 3 mois auparavant, elle était sûre de sa décision, beaucoup moins de sa direction. Elle fuyait sa vie balisée et cherchait un autre chemin. Elle a trouvé bien plus que ça. Il y a eu Anne et Camille, qui sont dans presque tous ses souvenirs. Sa rencontre la plus inattendue, mais aussi la plus importante. Elle a souvent envié les amitiés de ses héros du petit écran. Elle avait fini par se dire que c'était comme le grand amour, un truc qui n'existait pas. Aujourd'hui, elle sait avec certitude qu'elle a 2 amies. Elles étaient toutes les 3 à une période charnière en se rencontrant. Fragilisées, en quête de bonheur. Ça crée des liens forts. Il y a eu Rodolphe, qu'il n'a pas laissé partir si facilement. Elle pensait n'avoir aucune nouvelle pendant ces 3 mois. Elle croyait qu'il mettrait son départ à profit pour s'organiser une nouvelle vie avec une nouvelle femme et 2 nouvelles maîtresses. Il l'a étonnée. Elle ne le pensait pas si attachée à ses objets. Il y a eu Manaka, un projet fou, rapidement devenu réalité. Elle commence à y croire. Sa passion va peut-être devenir son métier. Si seulement. Il y a eu les voyages, les découvertes, les paysages à couper le souffle, les dauphins, les habitants d'ailleurs, les visites de musées, de monuments, les couchers de soleil, les rencontres, toutes ces premières fois. Désormais, lorsqu'elle regardera un reportage, elle pourra dire « J'y étais ». Il y a eu la vie à bord, les chocolats chauds sur le balcon, les spectacles variés, les soirées de gala, les tenues de soirée, la parenthèse dans les tâches ménagères, le roulis qui aidait à bien dormir, le bruit de l'eau, l'air marin, les nuits étoilées sur les transats du pont supérieur, l'animation permanente, les autres passagers qui font se sentir moins seuls, la piscine, son quotidien pendant 100 jours. Il y a eu Loïc, l'homme aux cheveux gris, un imprévu. Avec lui, ça a mal commencé. Elle ignore encore comment ça se terminera, comment ils se diront au revoir, si elle l'oubliera vite. Elle a lutté, mais elle s'est habituée à sa présence, attachée même. Il restera un souvenir précieux. Il y a eu elle, ses retrouvailles avec elle-même. Au fil des semaines, la carapace dans laquelle elle s'était enfermée a craqué, et Marie s'est découverte. Elle a souvent pensé à la petite fille qu'elle était. Elle s'est souvent demandé ce qu'elle penserait de celle qu'elle est devenue. Dans son imagination, ce soir, la petite fille sourit. Les bras de Loïc s'enroulent autour de ses épaules. « Tout va bien ?» demande-t-il. « Oui, ça va. » Tu veux que je te laisse seule ? Non, j'ai fini, répond-elle en lui prenant les mains. Reste avec moi. Marseille est dans le froid. Sur le quai, des dizaines de personnes sont venues accueillir leurs proches. Marie traîne. Dire adieu à la cabine 578 est difficile. Les oreillers blancs, le clapotis, le sol qui grince dans la salle d'eau, le transat du balcon, le mug bleu, la vue chaque jour différente, tout ça va lui manquer. Pendant 3 mois, ça a été son foyer. Elle est en train de fermer la valise verte lorsqu'elle voit une enveloppe glisser sur la porte. Elle sourit en la ramassant. La dernière lettre de Loïc. Il y a des ombres dans « Je t'aime ». Pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent, il y a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour a son langage, et moi, les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage, comme un sceau sur un parchemin, alors sache que je... Sache-le. Sache que je... Il y a mourir dans « Je t'aime ». Il y a « Je ne vois plus que toi », mourir au monde, à ses poèmes, ne plus lire que ses rimes à soi. Un malhonnête stratagème. Ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question dans « Je t'aime ». Qui demande, et même tutoie. Alors sache que je, sache-le, sache que je. Marie retourne la feuille. Il n'y a que les paroles de Goldman. Les autres fois, Loïc y ajoutait quelques mots. Là, non. Elle relit les paroles qu'elle connaît par cœur en cherchant à décrypter le message qu'elle a voulu faire passer. C'est ambigu. Il peut y en avoir deux. Soit il lui avoue être tombé amoureux, mais n'ose plus dire ce mot galvaudé. Soit au contraire, elle ne doit s'attendre à rien. Il ne veut plus aimer. Soit il a envie de la revoir, soit leur histoire s'arrête ici. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut, elle. Comment pourrait-elle saisir la signification d'un texte à double sens? Sa tête lui dicte de laisser tomber ses histoires de midinette. Elle va avoir suffisamment de choses à gérer, entre le divorce, le déménagement, les tricots et le reste, pour s'engager dans une relation à distance. Son cœur lui conseille de ne plus brider ses sentiments et de faire confiance à l'avenir. Ce serait dommage de le laisser filer sans prendre ses coordonnées. Elle range l'enveloppe dans son sac. Ils auront l'occasion d'en discuter tout à l'heure sur le quai, en se disant au revoir. Deux coups frappés à la porte la font sursauter. Pourvu que ce soit lui. Derrière la porte, Marianne et Georges ne se lâchent pas la main. Nous voulions vous dire au revoir, Marie, dit la vieille dame d'une voix tremblante. Les yeux de Marie se remplissent d'eau. Merci, Marianne. J'espérais vous voir une dernière fois. Je tenais à vous souhaiter d'être heureux tous les deux. Merci, Marie. C'est grâce à vous tout cela, dit Georges en lui prenant la main. Si vous n'étiez pas intervenu, nous serions rentrés chez nous sans avoir pu vivre notre histoire. C'est normal, c'était injuste. Vous allez faire quoi maintenant? Mes enfants veulent absolument que j'aille vivre dans une résidence pour personnes âgées, répond Marianne. Pas un de ces mouroirs déprimants, non. Une jolie résidence avec des logements indépendants. Avant, je ne voulais pas quitter la maison dans laquelle j'ai vécu avec mon Roger. Maintenant, je suis prête. Georges regarde la vieille dame avec tendresse. Je compte convaincre les miens de me laisser vivre dans la même résidence, ajoute-t-il. C'est loin de chez eux, mais ils comprendront que mon bonheur est là-bas. Je suis heureuse pour vous, s'exclame Marie. Vous êtes tellement beaux tous les deux. Nous devons vous laisser. Nos enfants nous attendent, dit Marianne en l'embrassant chaleureusement. Puis, elle entraîne Georges vers leurs dernières années. Elle balaye le hall des yeux à la recherche de Loïc. Entre les passagers qui se pressent vers la sortie pour retrouver leurs proches et ceux qui s'enlacent longuement pour se dire adieu, il y a du monde. Elle repère Rose en grande discussion avec un membre de l'équipage. Sans doute est-elle en train de râler, songe-t-elle avec amusement. Mais aucun signe de Loïc. Elle le retrouvera sur le quai, comme ils l'ont prévu. Loïc est sur le quai, mais il n'est pas seul. Un couple assez âgé et deux adolescents le serrent dans leurs bras à tour de rôle. Sans doute ses parents et ses enfants qui ont souhaité lui faire une surprise. Marie passe à côté d'eux, entraînant ses valises et son cœur lourd. Elle ne va pas pouvoir lui dire au revoir. Ils ne vont pas pouvoir échanger leurs coordonnées. Elle ne le reverra plus jamais. Elle essaye de repérer un taxi et de retenir ses larmes lorsqu'elle entend deux voix familières derrière elle. Elle a à peine le temps de se retourner que deux ouragans lui sautent au cou en criant. Ses filles, ses chéries. Elle les embrasse, elle les serre, elle les sent. On t'a fait la surprise, maman, s'écrie Justine en riant. On a mis du temps à te reconnaître avec ta nouvelle coupe. T'es trop canon, ajoute Lily. Derrière elle, Loïc lui adresse un sourire contrit. Elle a envie de courir le retrouver, de l'embrasser devant tout le monde, de lui demander s'il veut la revoir. Paris et Morlaix, ce n'est pas si loin. Elle pourrait passer des week-ends chez lui. Ils rempliraient leurs poumons d'air iodé et leurs journées de tendresse. Ils se feraient des confidences et des caresses toute la nuit. Ils écriraient leurs prénoms sur le sable et leur avenir ensemble. Mais elle ne peut pas. « Allez, maman, on y va ? L'avion est dans 2 heures. On rentre à la maison. » Marie sourit, attrape la poignée de la valise verte pendant que ses filles se chargent du reste et les suit vers le parking. Une dernière fois, elle jette un regard au majestueux bateau qu'il a porté, dans tous les sens du terme, durant ces 3 derniers mois. Puis, elle se retourne et regarde Loïc. Il parle à son fils en souriant. Maintenant, elle en est sûre, cette fossette va lui manquer. Fin de la parenthèse. Le parvis de la mairie est désert. Le fiancé et les invités attendent l'arrivée de la mariée à l'intérieur. La voiture, recouverte de fleurs, se gare à quelques mètres des marches. Et Anne en descend, suivie de Marie et Camille. Les deux témoins inspectent une dernière fois la tenue de leur amie. « T'es magnifique !» répète pour la 10e fois Marie en arrangeant le bas de sa robe. Parmi les choses qui déplaisaient à Anne dans le mariage, il y avait la robe, le voile, le lancé de riz, les rubans sur les voitures et tout ce qui faisait ressembler ce moment à une immense pièce de théâtre. C'était décidé. Elle porterait un ensemble ivoire qu'elle pourrait remettre ensuite. Pas de fioritures. Au fur et à mesure des préparatifs, son avis a lentement évolué. C'est dans une robe de mariée blanche, aux jupons gonflés par un double cerceau, un voile sur la tête et un bouquet à la main, qu'elle trépigne d'impatience de dire « oui » à Dominique. Elle m'a tellement plu que je l'ai prise aussi en ivoire. J'ai les jambes qui tremblent, les filles. Heureusement que vous êtes là. Camille rajuste une dernière fois le voile. Tu croyais quand même pas qu'on allait louper ça? On était témoins, bordel. Les trois femmes sont à quelques pas de l'entrée de la mairie lorsqu'une vieille dame en sort et vient à leur rencontre. Marianne, je suis heureuse que vous ayez pu venir, s'écrie Anne en l'embrassant. C'est avec plaisir, répond-elle. Depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle résidence, nous n'avons pas beaucoup voyagé, mon Georges et moi. Ce séjour à Paris est un enchantement, et nous sommes émus de toutes vous revoir pour ce joyeux événement. La vieille dame serre Marie et Camille dans ses bras, puis fait signe à Anne de se retourner. D'une main tremblante, elle fouille son petit sac blanc et en sort quelque chose qu'elle accroche au cou de la mariée. Son camé. « Oh, Marianne !» dit Anne en retenant ses larmes. « Mais vous l'avez acheté. Je ne peux pas... »« Il ne me plaît plus, » répond Marianne en balayant l'objection de la main. « Et puis, il vous va beaucoup mieux à vous. » La salle est petite et il y règne une chaleur difficilement supportable. Mais les invités n'y prêtent pas attention. Tous guettent l'arrivée de la mariée et les larmes dans les yeux de son promis. Les deux arrivent en même temps, sous les applaudissements. Assises à côté de leur amie, Marie et Camille sont aux premières loges de sa joie. Sur le bureau du maire, elles ont installé un troisième témoin, Doudou. Camille se retourne et cherche dans la foule celui qui l'accompagne. William est au fond de la salle et la regarde en souriant. Il ne parle pas encore suffisamment français pour comprendre tout ce qui se dit, mais il semble gagné par l'euphorie ambiante. Le bonheur est un langage universel. Il y a 6 mois, Camille s'est envolée pour l'inconnu à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, l'autre bout de la planète est sa maison. L'inconnu, son quotidien. William l'attendait à l'aéroport avec ses grands yeux noirs et une clé de son appartement. Leurs retrouvailles ont été encore meilleures que dans son imagination. La banquette arrière de la voiture s'en souvient encore. Il lui a fait une place dans ses placards et dans sa vie. Elle s'y est plu. Avant elle, William aussi avait eu un tableau de chasse bien garni. Se débarrasser de celle qui venait sonner chez lui a demandé un peu de temps et une officialisation. Leurs deux noms sont désormais inscrits sur la porte. Au bout d'un mois, ils sont venus passer deux semaines à Bordeaux. William a été présenté à la famille et aux amis. Tous ont pensé que Camille avait complètement perdu la tête et qu'elle reviendrait vite. Seul son père a compris que ce n'était pas le cas. Il l'a serré fort dans ses bras en lui disant que sa mère aurait été fière. Elle a vidé son appartement et s'est occupée des formalités de son licenciement. Julien fumait une cigarette devant l'agence quand elle en est sortie. Il l'a saluée poliment, elle lui a envoyé un large sourire et en rejoint sa voiture en faisant tanguer ses hanches. S'il savait que sans lui, elle ne serait pas partie et n'aurait jamais rencontré William. À Auckland, elle a reçu plusieurs propositions via le formulaire de contact de son blog. Une agence de publicité renommée l'a ajoutée à son catalogue d'illustrateurs. Désormais, en plus des revenus générés par Manaka, elle gagne sa vie en dessinant pour des campagnes de communication. La plus belle opportunité est venue d'un éditeur. Elle vient de mettre le point final au livre qui sera édité en fin d'année. Le tour du monde en 80 mecs. Bientôt, ils quitteront le petit appartement de William pour un plus grand, mais dans le même immeuble. Il s'y voit déjà avec sa grande baignoire d'angle, son îlot central dans la cuisine, sa baie vitrée donnant sur la ville, son bureau lumineux et sa petite chambre blanche juste à côté de la leur. Camille caresse son ventre en souriant. Plus que 6 mois avant qu'elle rencontre son petit machin qui chie et qui braille. Anne et Dominique se tiennent les mains en se regardant dans les yeux. Anne, Madeleine, Arlette, Duval, acceptez-vous de prendre pour époux Dominique Pierre Morin, ici présent ? Oui, je le veux. Dominique Pierre Morin, acceptez-vous de prendre pour épouse Anne, Madeleine, Arlette, Duval, ici présente ? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Les jeunes mariés s'embrassent sous les applaudissements et les flashs des invités. Derrière son appareil, Yanis ne manque pas une scène. Ce sont des moments d'intimité que tu n'auras pas à voler, lui a dit Anne en riant. De temps en temps, il vérifie sur l'écran si les clichés sont réussis. Chaque fois, il se dit qu'il doit absolument arrêter de prendre Angélique en photo et se concentrer sur le couple du jour. Il aura tout le temps de la mitrailler lorsqu'ils auront emménagé ensemble le mois prochain. Anne se félicite d'avoir choisi du maquillage waterproof. Elle a réussi à retenir ses larmes pendant 10 minutes, mais elles ont finalement fugué. Marie, debout à ses côtés, tient le petit coussin en satin sur lequel sont posées les alliances. « Elle ne les a pas oubliées, elle !» lance la cousine d'Anne en riant. En passant l'anneau au doigt de Dominique, elle savoure pleinement. Elle croyait ne jamais le revoir, et là, ils se promettent de rester côte à côte jusqu'à leur dernier souffle. Elle connaît le manque. Elle sait à quel point c'est douloureux de se dire qu'on ne serrera plus jamais quelqu'un contre soi. C'est une chance. C'est grâce à ça qu'elle apprécie désormais chaque seconde passée avec lui. Ils ont passé 1 mois à Phuket, sur Koh Yao Noi. C'était à la fois comme s'ils ne s'étaient jamais quittés et comme s'ils venaient de se rencontrer. Ils ont fait de la plongée, l'amour, de la bronzette, se sont écrit des petits mots, ont prévu de sauter en parachute, mais Anne a renoncé au dernier moment. Ils ont mangé toutes sortes de poissons, fait l'amour encore, dormi au bord de la piscine, discuté, dormi au bord de leur piscine privée, refait l'amour. À leur retour en France, après un vol les ongles plantés dans les cuisses, Anne a retrouvé son appartement, son chat et son quotidien avec Dominique. Il a quitté son logement refuge et rempli les placards de ses affaires. Elle n'aime pas l'avouer, mais cette pause a été bénéfique. Elle a réalisé que le bonheur se cachait dans les petits moments du quotidien. Lorsqu'elle pensait l'avoir perdu, tout lui manquait, même les choses auxquelles elle ne prêtait pas attention ou celles qui l'agaçaient. Désormais, elle les apprécie. Se brosser les dents avec lui, l'entendre mâcher la bouche ouverte, étendre ses chaussettes, le voir claquer les portes, l'écouter noyer ses histoires de détails sans importance. Il est là. Dominique enfile la bague à l'annuaire d'Anne. « Je vous aime, Madame Morin. » Comme tous les autres invités, Marie chante un morceau choisi par les mariés. « Tu es de ma famille » de Jean-Jacques Goldman. « Et crever le silence quand c'est à toi que je pense, je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens. Mais tout ça n'a pas d'importance. » Loïc est au dernier rang, à côté de William, les yeux rivés sur les paroles. Comme chaque fois qu'elle le regarde, Marie sent des chatouilles dans son ventre. Le retour a été brutal. Rodolphe avait fait changer les serrures. Elle a dû faire appel à un huissier pour récupérer ses affaires. En entrant dans ce qui avait été son foyer pendant 20 ans, elle s'est sentie étrangère. Ce n'était plus chez elle. Elle a rempli quelques cartons et emménagé dans une chambre d'hôtel en attendant d'avoir un revenu régulier pour qu'un propriétaire accepte de lui louer un appartement. C'est au bout de 3 semaines qu'elle a reçu un appel de Loïc. C'est le temps qu'il lui avait fallu pour réussir à obtenir la liste des passagers en usant de sa carte de presse. Il a entrepris d'appeler toutes les Marie, Anne et Camille présentes sur le paquebot. Il a fini par tomber sur la bonne Anne, qui était ravie de lui donner les coordonnées de Marie et de garder le secret. « Je lui en dois une depuis l'histoire du guide à Hawaï », elle a dit. Marie était en train de taper « Loïc, cheveux gris, Bretagne » dans Google quand il l'a appelée. Elle a failli tourner de l'œil. Ils se sont revus dans un endroit neutre, puis chez lui. Puis dans son provisoire chez elle, puis encore chez lui. Sans l'environnement du voyage, ils ont eu peur que ça ne prenne pas. Ça a pris. Ils passaient leur journée à discuter, faire l'amour, rire, manger. Dès que le divorce a été prononcé, Marie a présenté Loïc à ses filles. « Vous ressemblez à des ados, c'est mignon », a dit Justine. « Un peu ridicule, mais mignon », a ajouté Lily. Les enfants de Loïc ont été un peu plus réticents, mais peu à peu, leurs relations s'adoucissent. Ils ne vivent pas ensemble, par choix. Ils n'en ont pas envie. Peut-être qu'elle viendra, peut-être pas. Mais ils ne sont pas trop loin non plus. C'est à Carantec qu'elle habite désormais, à 2 minutes de l'océan, 5 de la maison de Loïc, 3 de la boutique de laine. Il la rejoint plusieurs fois par semaine. Elle frémit d'excitation chaque fois que l'interphone sonne. Lily et Justine arrivent chaque vendredi soir et repartent le dimanche matin pour retrouver leur père jusqu'au lundi. Elles ont leur chambre avec un lit superposé, comme quand elles étaient petites. Marie leur a laissé le soin de la décorer et elle s'est chargée des autres pièces. Elle a mis des couleurs, des lumières partout, des photos de la croisière au mur et décorer sa chambre comme l'était sa cabine. Même le balcon est là, avec un petit bout d'océan au loin, entre 2 toits. Le succès de Manaka ne se dément pas. La marque bénéficie d'une belle visibilité et les ventes augmentent chaque mois. Marie en vit bien, sans avoir à demander le moindre centime à Rodolphe. Elle a même embauché une de ses nouvelles voisines, passionnée de tricot, pour accroître la production. Camille imagine régulièrement de nouveaux visuels. Marie, Anne et elle parlent de ça et de tas d'autres choses lors de leur appel visio hebdomadaire. Entre 2 refrains, Loïc lui envoie un baiser. Le cœur de Marie fait un saut périlleux dans sa poitrine. Elle avait tort. À 40 ans aussi, l'amour peut être illimité. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc, tout noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège s'il l'entend. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment ni pourquoi. Tu crois à pas grand-chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petit boulot de petit rien. Tu es de ma famille, tu es de ma famille, tu es de ma famille. Du même rang, du même vent. Tu es de ma famille, tu es de ma famille, même habitant du même temps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Croisons nos vies de temps en temps. À 4 heures du matin, la plupart des invités sont partis. Marie, Anne et Camille se retrouvent autour d'une bouteille de vin. Marie tend une enveloppe à Anne. Voici le cadeau de mariage de la part de Manaka. Mais fallait pas, les filles. Ça nous fait plaisir, répond Camille. Ouvre. Anne obéit et sort une carte de l'enveloppe. J'ai enlevé mes lentilles à cause des larmes. Je n'arrive pas à lire. C'est quoi? C'est un billet pour une croisière d'une semaine. On part toutes les trois le mois prochain. Tout est arrangé avec ton mari et ta patronne, dit Marie. Et on fera ça une fois par an, ajoute Camille, pour ne jamais oublier. Anne se lève et les serre dans ses bras. Je vous aime, les filles. Nous aussi, on t'aime. Venez, on trinque, dit Camille en remplissant les verres. Elles lèvent leurs verres et déclament en chœur. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie.
C'était Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. À bientôt pour un prochain À vous la suite.